à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, c'est un 26 janvier. C'est la fête de plusieurs grands saints, mais comme nous sommes dans un salon, j'ai pensé éviter de parler de façon détaillée de certains saints, comme Saint Tite et Saint Timothée aujourd'hui, bien que ça puisse intéresser certaines personnes qui viendraient de certains villages qui portent des titres, des noms, c'est-à-dire comme Saint Timothée et cette municipalité qui est près de Salaberry de Valleyfield, n'est-ce pas, l'endroit où le Saint-Laurent là, se rétrécit pour former les rapides des Cèdres, hein? À 3 kilomètres de Mélocheville. Il y a aussi Saint-Tite, municipalité et ville, hein? Au contrefort des Laurentides, puis il y a le fameux village de Saint-Tite-des-Caps, très réputé, cette municipalité, hein, qui est très connue. Et les gens prononcent ces noms sans savoir qui sont ces saints. Mais qu'est-ce qu'un saint, justement? On peut se le demander aujourd'hui, ce serait peut-être une bonne occasion. C'est une chose étrange que la sainteté. Ça semble une chose extrêmement distanciée, mais c'est pourtant une chose qui est très près de nous, hein. Elle nous est assignée par Dieu. C'est un appel universel que Dieu nous adresse, mais comment y répondre, hein? Dans Saint Matthieu, Jésus dit bien que il y a des saints qui seront surpris en arrivant au ciel, hein. Ils seront très, très surpris. Ils étaient des saints, ils ne le savaient pas. Et c'est Jésus qui va leur dire, chaque fois que vous faisiez ceci, cela, etc., et des gestes très simples, des gestes de bienveillance, de charité, d'amour et de respect, des gestes de don de soi-même, fait que les gens deviennent des saints sans le savoir, et c'est plein. On est frappé de voir comment la sainteté ne nous est même pas proposée, elle est imposée. Hein? Dieu le veut parce qu'il est lui-même saint, dit-il dans Saint Matthieu chapitre 5, et parce qu'il a placé dans notre sainteté sa joie. Il désire nous rassasier, puis il sait que ça va nous rendre joyeux si on veut bien céder. Oui, céder, mais en même temps grandir. Hein? Dans la sainteté. Car les saints, c'est pour Dieu quelque chose d'extrêmement important. C'est comme s'il avait construit cette planète, comme disent certaines personnes, il l'avait construite pour fabriquer des saints. La terre serait une fabrique de saints. Ça semble exagéré, hein? Mais je ne vois pas d'autre but à cette histoire de planète qui tourne autour du soleil, circule dans l'espace à des rapidités invraisemblables. Je pense qu'il faut écarter de nous là, une idée que la sainteté, c'est une affaire d'élite, une affaire de quelques rares personnes ici là, qui vivent dans des cloîtres, des moines, des héros, des privilégiés. D'ailleurs, au dernier concile, les évêques, tout simplement, m'ont dit que cet appel ne devrait pas faire peur. Même à des convertis qui sont très saisis par la grâce divine, comme je pense à des lectures que je faisais quand j'étais jeune. Et certains des gens de mon âge ont fait des lectures comme celle-là. C'est les lectures de Jacques Rivière, hein, ce fameux livre « À la trace de Dieu ». Il dit dans ce livre « Peur de l'abîme » en parlant de la sainteté. Il y a peur d'un abîme. Hein. C'est vrai qu'on a peur de ça. On ne veut pas s'engager là-dedans. On a l'impression que c'est un tunnel noir. Il écrit « Peur de cet enchaînement terrible d'exigences ». Où l'on tombe, dès que l'on consent à Dieu. On tombe pas, on grandit, on monte. Hein? Il continue, il dit, « Mon Dieu, éloignez-moi de la tentation de la sainteté. Je ne suis pas fait pour ça. Ne confondez pas, là. Je ne suis pas de l'espèce qu'il faut. » Il dit, « Je suis marié et père, alors contentez-vous d'une vie pure et patiente, que je ferai tous mes efforts pour vous donner. C'est tout ce que je peux vous offrir. Hein? » C'est aux pages 243-244, au cas où vous auriez ça dans votre vieille bibliothèque, là, « La trace de Dieu » de Jacques Rivière. Hein? C'était un auteur très lu, très, très lu, une cinquantaine d'années. Et je crois que ça redevient, il revient, on revient vers ces écrits-là actuellement. Il y a un retour vers le sens de la vie, parce que les gens ne peuvent plus vivre sans sens, sans savoir qu'est-ce qu'ils font sur cette planète. D'où nous sortons finalement, on est fait de la terre et de la matière du sol. On est passé par le sein de notre mère, on mange, on grandit, puis on y retourne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tout cas, heureusement, on ne peut pas fixer la hauteur de la barre qu'il faut sauter et que Dieu seul connaît. Hein? il nous est demandé d'essayer de sauter toujours plus haut. Comme les aux Jeux olympiques, là, quand on voit, ils lèvent la barre. Hein? Et seul, à la mort, ben, chacun de nous verra s'il a été jusqu'à la plénitude. Jusqu'à la plénitude de ce que Dieu attend de nous autres. Il attend rien, presque rien. Oh, si vous saviez comme il attend presque rien. La vraie sainteté, c'est quand, on peut dire, il y a coïncidence parfaite entre l'appel que Dieu nous lance au fond de notre cœur, puis la réponse. Pour qu'il y ait une coïncidence entre les deux, c'est tout. Ça consiste à devenir chacun ce que nous sommes. C'est simple, au fond. Vous direz, non, c'est pas si simple que ça. D'accord, Dieu seul est saint. Hein? C'est en Jésus-Christ que Dieu manifeste toute sa sainteté. On le voit quand on lit la vie de Jésus, ou enfin les évangiles. Quelle sainteté extraordinaire, hein, qui va jusqu'à la croix, jusqu'à pardonner à ceux qui l'ont tué. Pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent ce qu'ils font. Il est d'une sérénité, d'une patience, mais il y a une bonne colère dans le temple quand il se fâche. Et il sait avoir de l'humour aussi, et se moquer de certaines prétentions quand une femme veut absolument que ses deux fils, qui sont des apôtres, aient des belles places. En somme, la première, la seule canonisation vraiment authentique, là, c'est celle que Dieu le Père fait de Jésus quand? Quand est-ce qu'il le canonise, Jésus? C'est le jour de la transfiguration, là, sur le mont Tabor, quand Jésus apparaît à ses apôtres dans une blancheur éclatante, il est canonisé. C'est ça, la sainteté vraie. Nos corps resplendiront, nous aussi. Et les saints resplendissent au ciel. Hein? C'est par Jésus-Christ que Dieu communique sa sainteté aux hommes. Hein? Comment ça? Ben, ça se transmet dans l'Église. Par Jésus-Christ, c'est-à-dire les paroles, on entend des paroles. Il nous dit des choses. Il y a des livres magnifiques qui relatent toutes les paroles de Jésus, hein, qui sont faits de façon absolument magnifique. Je vous en ai déjà cité un. C'est le livre de... un petit plaquette de Charles de Foucault, intitulé « Le modèle unique ». Charles de Foucault, dont je vous ai parlé le 1er décembre, hein, cet homme extraordinaire qui est extrêmement riche. Je le mentionne étant dans un salon où il est beaucoup question d'argent. Ça m'amuse de parler de lui deux secondes, parce qu'il était si riche, il a tout sacrifié pour chercher la richesse essentielle. Et ce n'est pas nécessaire de tout quitter pour trouver la richesse essentielle. C'est Mère Teresa qui disait à un des financiers les plus importants de Montréal, enfin un homme qui possède une immense usine, et qui voulait donner sa vie à Mère Teresa, et elle lui dit, mais ne faites pas ça, restez un patron honnête, sincère, chrétien, il en faut dans la société, continuez à faire ce que vous faites et le bien faire. C'est extrêmement important, disait-elle. Et elle avait bien raison. Hein? Car les paroles de Jésus qui sont exigeantes demeurent des conseils, ce ne sont pas des ordres. Ce sont des conseils, tout simplement. On n'est pas tous appelés à les suivre, les conseils. Non, non, la très grande majorité n'est pas appelée à suivre ces conseils absolus, là, épouvantables. Il y a des gens qui les prennent facilement. Je me souviens, quand je suis entré dans un monastère, j'ai décidé ça à 17 ans, je suis entré à 18 ans, je quittais les choses que je possédais et qui m'étaient très, très chères. Un tableau de Jacques de Tonnancour, un dessin de Louis Archambault, des disques qui me tenaient à cœur, une bibliothèque que j'aimais beaucoup, certains vêtements, des amis, ma bicyclette, ma raquette de tennis, mes skis, etc. On quitte toutes sortes de petites choses comme ça quand on a 18 ans. Mais j'avoue que j'ai quitté tout ça avec une grande joie. Ça m'intéressait pas parce que j'étais confiant que Dieu m'attendait. Hein? C'est une sorte de vocation, un appel. Malheureusement, ça n'était pas le cas pour moi, semble-t-il. Je n'étais pas appelé à ça. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Quand on récite le « Je crois en Dieu », on dit toujours « Je crois à la Sainte Église catholique ». Savez-vous que ça date de longtemps, ce qu'on l'appelle sainte, mais souvent on la trouve bien épouvantable, cette Église. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à se qualifier du comme ça, Sainte Église? Ça date du 2e siècle. Hein? Il est vrai que l'Église est pleine de cicatrices. Je dirais que souvent, dans l'histoire, elle marche avec des béquilles. Elle a l'air en très mauvais état. On se rend compte qu'il y a eu des papes, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, et surtout des amoncellements incroyables de laïcs qui n'avaient aucun sens. C'est que le carnet, si on peut dire, de l'Église, vous savez, carnet de rendez-vous, comme il y en avait autrefois, mais c'est un carnet de rendez-vous manqué avec beaucoup de saints. Nous sommes tous appelés, puis on répond très peu, hein? Et ce qui fait vraiment, finalement, la sainteté de l'Église, c'est pas sa fidélité, la fidélité de ses membres, de ses enfants. C'est la fidélité absolue, inaltérable, de celui qui l'a fondé, le Christ, qui a un cœur qui embrasse l'Église totalement. Il la voit, lui, splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais sainte et irréprochable. Où est-ce qu'on lit ça? C'est dans l'Épître aux Éphésiens. C'est saint Paul qui dit ça. Je vous ai parlé hier de sa conversion, ce juif étrange et fervent juif qui se convertit d'un seul coup. J'ai parlé de la conversion hier de cet homme, conversion fantastique. Et voilà ce qu'il dit de l'Église, hein, splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais sainte et irréprochable. C'est qu'elle est comme ça à l'intérieur, malgré toutes les apparences. Elle n'est pas d'abord sainte parce qu'elle est faite par des saints. Elle est sainte pour faire des saints. L'Église est un grand courant spirituel qui vient du cœur de Jésus, du Christ. Et c'est comme ça qu'on peut aimer l'Église. Quand on se met à la voir comme ça, on la critique beaucoup moins. Je dirais qu'on la critique presque plus. Il y a même des gens qui arrivent à ne jamais la critiquer. Pas parce qu'ils sont aveugles, mais parce qu'ils l'aiment, et leur façon de vouloir faire des réformes, c'est pas en la critiquant, c'est en agissant, en réunissant des gens autour d'eux, en faisant des choses pour la transformer, pour la guérir de ses plaies, pour lui enlever ses béquilles au besoin dans les moments très graves. Croire à la sainteté de l'Église, c'est pas regretter qu'elle rassemble beaucoup trop de pécheurs, c'est regretter plutôt que tous les pécheurs de la terre soient pas là. Oui. Ce serait une bonne chose que tous les pécheurs de la terre soient membres de l'Église. Il n'y aurait qu'une seule Église et l'Église pourrait tous les guérir petit à petit. Hein? C'est croire que la capacité de l'Église de faire des saints là, est illimitée parce qu'elle a un dépôt incroyable. Elle a des richesses extraordinaires qui sont la parole de Dieu, transmise dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les Évangiles et les Épîtres de Paul dont je vous ai parlé hier. Et c'est pour ça que l'Église ne cesse de nous montrer, en canonisant quelques saints, on peut dire la foule immense des saints, les milliards de saints qu'il y a au ciel, qui témoignent au fond que Dieu n'a pas manqué son coup, ou non, il a réussi. C'est en couronnant les mérites des saints que l'Église canonise, qu'elle couronne, au fond, des dons qui viennent de Dieu. Et c'est Dieu qui l'est glorifié. C'est lui qui est glorifié dans l'Assemblée des saints. L'Église ne veut pas nécessairement glorifier saint un tel. Aujourd'hui, c'est la fête de saint Tite et saint Timothée, je vous l'ai dit. C'est pas pour les glorifier, c'est pour glorifier celui qui les a faits. Et parmi les saints de Dieu admirés, évidemment, ben on doit commencer, et c'est bien normal, par la mère de Jésus, sainte Marie. Hein? Ce serait, comme disent bien des mariologues, la plus grande réussite du Christ. Ça l'est. Dieu pouvait pas faire autrement. Hein? C'est sa mère. Et le Fils de Dieu, c'est sa mère, Jésus. En Marie, l'Église, on peut dire, contemple son propre mystère, si on veut. Elle contemple ce qu'elle est elle-même, dans un sens. Elle seule, Marie, a réalisé, dans sa personne, dans son corps, hein, dans son âme, dans son esprit, la sainteté de l'Église, à ce point-là. Hein. Et les premiers saints, reconnus par l'Église, c'était des martyrs au début. C'est pas étonnant, hein. Le martyr, c'est pas un exploit, c'est pas une performance. Les légendes nous laissent croire ça. C'est tout simplement le martyr, l'accomplissement d'une vie de charité, des gens qui vivent d'amour, ils sont pleins d'amour, ils lâchent pas. Ils lâchent pas, ils lâchent pas, ils lâchent jamais. Et leur vie est conforme à celle de Jésus sur la terre, jusque dans la mort. Et ça, dans les choses les plus simples. Moi, j'ai rencontré des saints, c'était des gens très simples. Ils donnent la main comme n'importe qui, mais ils la donnent. Il y a un regard, quand ils nous la donnent, ils nous regardent. Et ils ont un regard d'une grande bonté, une grande douceur, une grande intelligence aussi. Et ils ont presque tous, je crois, un sourire, un très doux sourire. Et on sent chez eux une espèce d'énergie puis une capacité à aller de l'avant, fantastique dans les œuvres qu'ils font. Je me souviens en particulier de Jacques Le Breton. Vous savez, cet homme sans main et sans yeux. Vous vous imaginez quelqu'un qui n'a pas d'yeux et pas de main, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut même pas faire bouillir un œuf, hein? Ben, cet homme a écrit un livre qui est très saisissant, hein? Sans Dieu et sans yeux et sans main. Et c'est publié chez Casterman. Ça a été publié il y a déjà plusieurs années. Mais c'est vraiment un livre étonnant où il raconte son expérience où, tout jeune, à 20 ans environ, il perd ses yeux et ses mains et se retrouve dans une incapacité de rien faire de sa vie, en apparence, mais il deviendra père de 5 enfants. Une femme merveilleuse l'aimera tel qu'il est. Et puis, il a perdu sa femme il y a une couple d'années, malheureusement. Il est seul, il a 5 fils qui sont mariés, et il est diacre dans l'église. Lui qui s'était révolté, qui était devenu athée, qui s'était enragé de la situation dans laquelle il était, puisqu'il ne pouvait même pas boutonner sa chemise. Il ne pouvait pas mettre un pantalon, il ne pouvait pas s'habiller, il ne pouvait pas rien faire, mais rien faire, hein. Incroyable. Et alors, il y a aussi un saint, moi, que j'aime beaucoup, c'est le bon larron. Et beaucoup de gens l'aiment dans l'Église, parce que c'est un homme là qui arrive à la dernière heure. C'est consolant pour une grande partie des gens qui ont eu des vies plus ou moins compliquées et plus ou moins plates. Hein. Lui, c'est le client, si on peut dire, de midi moins 7, juste avant que le magasin ferme, là. Ou bien, de, si vous voulez, de 6h moins 7. C'est le seul qui a été canonisé par Jésus lui-même. Hein. Vous vous souvenez du haut de la croix, là, Jésus lui dit, « Au jour du même, tu seras avec moi dans le paradis. Hein. » C'est un saint tellement étonnant. Il dit presque rien, fait presque rien. Il regarde Jésus, puis il lui dit, « Ne m'oublie pas quand tu seras dans ton paradis. » Et puis il dit à l'autre larron, il n'a rien fait, puis il est puni, nous sommes des voleurs. Et il reconnaît son péché, son péché, sa faute, sa vie mauvaise, mais il reconnaît surtout la grandeur de Jésus, puis il l'aime. Et c'est ça qui change, hein? Et c'est absolument phénoménal. Et alors, les saints qui sont catalogués par l'Église, là, on se demande souvent s'ils sont nombreux. Ben, ça dépend. On peut dire que l'Église en a vraiment canonisé environ 10 000. Mais il y en a 40 000 dans le catalogue, parce qu'il y en a 30 000 qui ont été insérés rapidement, en particulier les premiers papes pendant les premiers siècles. Alors, on ne sait pas trop s'ils étaient des saints, mais en tout cas, c'était automatique. Et puis, les martyrs aussi, puis enfin. Parce que la canonisation n'est venue que beaucoup plus tard. Canonisation, ça veut dire tout un procès, des études, des analyses, des écrits, de la vie. Ils reçoivent des témoins, les gens viennent réfléchir, discuter. Il y a des gens dans l'Église que l'on appelle les avocats du diable, c'est-à-dire ceux qui luttent contre la canonisation ou la béatification, c'est le degré en bas, là. Et ça prend beaucoup de temps aujourd'hui, habituellement plusieurs années, même parfois jusqu'à 50, 60 ans. Hein. En somme, dans le petit nombre de saints canonisés, il n'y en a que 200 même qui sont proposés par l'Église pour être vénérés à certains jours de façon plus ou moins officielle dans la liturgie, en célébrant leur fête. Hein. À peine 200, hein. Oh, puis là-dessus, la plupart ne sont que, comme on dit, commémorés. C'est-à-dire, on en parle un peu, mais pas beaucoup, à peine. Alors, l'Église est centrée dans sa célébration, là, tous les jours, des fêtes. Elle est centrée sur la Trinité. Elle est centrée sur le fait de célébrer la gloire de Dieu en union avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et tout ça dans l'union de l'Esprit-Saint. On parle pas tellement des saints dans l'Église. Et il ne faut pas s'imaginer que l'Église catholique n'est obnubilée par les saints. À cette émission-ci, Rencontre spirituelle à Radio Ville-Marie, d'accord, on parle souvent ça. Mais ce n'est pas une obnubilation. C'est une façon, pendant une heure, d'apprendre à connaître des gens qui, comme nous, ont vécu comme nous, souvent ont été des êtres humains, mais ont su répondre tout à coup. Et qu'il faut reconnaître que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de laïcs qui ont été canonisés. Pourtant, la plupart des saints sont des laïcs, j'en suis sûr. Ils se sont sanctifiés dans des métiers d'hommes ou de mères de famille. Ils sont peu présents dans la liste des saints. Bon, on les trouve souvent dans les calendriers d'un pays, d'un diocèse. Des saints qui sont canonisés comme pour des régions. En tous les cas, il y a des saints qui se sont canonisés dans toutes sortes de choses, même dans le commerce. Oui, oui, dans des entreprises financières. Parce qu'ils avaient le cœur à la bonne place. J'en ai déjà interviewé qui s'occupaient dans les hautes sphères du pétrole mondial. Et c'était des hommes admirables, d'une grande intégrité. Les saints et les saintes, on peut leur demander de prier pour nous. Pas seulement des saints qu'on voit dans le calendrier, mais toute la foule anonyme, là, les millions, les milliards de saints. On les fête le jour de la Toussaint. J'aime bien cette fête. Hein. Mais dites-vous bien que quand on fête la Toussaint, c'est des milliards qu'on fête. Ils se pressent au ciel. Là. C'est une espèce de cohue, j'imagine, autour d'une lumière centrale qui est Dieu et qui les éblouit. Comment parler de Dieu, hein? On peut dire lumière, car Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et ces rassemblements au ciel, mais ça se tient pas évidemment à guichet fermé, c'est toujours ouvert. Hein? Et puis, il y a toujours des entrées nouvelles, chaque jour, des hommes, des femmes et même des enfants qui s'acheminent au ciel. Oh, il y en a beaucoup qui y vont clopin-clopin peut-être, mais ça me gêne pas, moi, qu'ils entrent au ciel clopin-clopin. C'est Charles Péguy qui disait « Il faut se souder, il faut arriver ensemble chez le bon Dieu, il faut que toute la chrétienté marche comme un seul homme », disait-il. Aujourd'hui, on dirait peut-être comme un seul homme et une seule femme, ou je ne sais trop, il faudrait ajouter le mot « femme hein. ». Mais regardons simplement autour de nous, hein. Les saints pullulent beaucoup plus qu'on pense. C'est plein de gens qui s'occupent de toutes sortes d'œuvres avec énormément de charité. On ne sait pas les reconnaître, hein. Chacun de nous fait partie de ce peuple de saints. Et il suffit de se mettre en route, mais comment, hein? Rappelez-vous ce qu'a fait l'enfant prodigue, lui, qui fréquentait les clubs de nuit de son temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne vers son père. C'est simple. C'est tout. C'est le père qui fait tout le reste, qui fait la fête, qui l'embrasse et qui lui suscite dans son cœur une joie à nul autre pareille, qui est la joie d'un fils qui rejoint son père. C'est simple être saint, finalement. C'est tout simplement prendre la direction du cœur de Dieu, l'aimer, penser à lui, réfléchir. Oui, notre Église, c'est l'Église des saints. C'est une Église des saints. C'est Georges Bernanos qui disait ça. Il criait que notre Église, c'est l'Église des saints. Toute sainteté, d'ailleurs, n'est que le reflet d'un état, qui n'appartient qu'à Dieu. Vous savez, j'aime bien un texte du Père Carré. C'est un membre de l'Académie française que je connais bien, j'ai souvent mangé avec lui. Je dis pas ça pour me vanter, je dis parce que j'ai eu la chance de connaître des saints, et voilà un homme qui respire, en tous les cas, d'une grande foi, d'une grande qualité. Je les ai connus, je dis pas ça pour me vanter, croyez-moi, c'est mon travail à Radio-Canada qui m'a permis de rencontrer tous ces gens-là. Pourquoi Dieu m'a choisi, je ne sais pas. En tous les cas, le Père Carré dit à la fin d'un livre qui s'appelle « Sainteté, miroir de Dieu » paru il y a bien longtemps, il y a 40 ans, aux éditions du Cerf, il dit « Toute sainteté n'est que le reflet d'un état qui n'appartient qu'à Dieu », comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Puis il fait une prière à la fin, qu'on pourrait faire nôtre. C'est une prière par rapport au sacerdoce, au prêtre. Alors c'est un prêtre qui parle à d'autres prêtres en donnant cette prière. Alors insultez-vous pas les prêtres qui m'écoutaient. Il dit « Seigneur, faites que nos prêtres nous donnent envie de devenir des saints ». Or hier, je citais une messe et justement le prêtre nous donnait envie de devenir des saints. C'était comme une geste de la Providence, curieux, il a parlé de la sainteté, il nous invite à être des saints, il nous en a parlé sur un ton très doux, très simple et très vrai. Car un saint, c'est un baptisé qui a vécu d'une façon exemplaire, qui mérite d'être proposé comme un modèle idéal. Et sa vie n'est pas faite de péché, elle est faite de dons de lui-même. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour dans sa vie. Beaucoup d'actions de grâce, de chants de louanges. En somme, la sainteté, ça consiste à quoi? À aimer Jésus, comme Jésus lui-même a aimé. Et c'est ça, c'est pas si compliqué. Aimer, et faire un peu comme François d'Assise, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, François de Sales, oh, ce sont tous des clercs ou des sœurs, mais c'est aussi comme Anna Maria Taigi, une mère de famille, et bien d'autres mères de famille et laïques. Je voyais, il y a quelques années, dans les rues de Paris, quelqu'un que j'avais interviewé à rencontre, qui s'appelle Jean-Loup Ders, et qui était directeur général, président directeur général, vous savez, de la construction du fameux tunnel sous la Manche, qui a coûté des milliards, des milliards et des milliards de dollars. Il avait résidence à Londres, résidence à Paris, et je le voyais à Paris, lui qui avait un poste si important, eh bien, il allait dans la rue à Paris, puis il prêchait avec des amis, il chantait des chants, des cantiques. Il a converti, dit-il, des musulmans et surtout beaucoup de chrétiens qui avaient abandonné plus ou moins la foi et la pratique religieuse. Et il les avait ramenés à vivre quelque chose d'autre. Et ce sont ces saints que l'on connaît pas, qui sont des gens souvent bien merveilleux et qui font des choses étonnantes et qui prêchent comme ça en public ou du moins, qui ne se gênent pas pour dire les choses vraies. Je vous ai pas dit qui étaient les saints que l'on pouvait fêter aujourd'hui au calendrier de l'Église. Je vous fais grâce des saints qui ont des noms trop surprenants, mais ben oui, pourquoi pas un disciple de saint Antoine dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps, le fondateur des monastères au IVe siècle. Il s'appelait Amonas, quel étrange nom. Et un autre saint Aubry, qui a été abbé du monastère de Cîteaux, mais c'est aussi la fête de saint Robert de Molème qui a fondé Cîteaux les cisterciens, c'est-à-dire les trappistes comme on les a au cas, les cisterciens comme on en a à Rougemont. Hein. Alors c'est Robert de Molème qui avait fondé ça à la fin du XIe siècle, Cîteaux, l'abbaye de Cîteaux. Puis il y a Marguerite de Hongrie, aussi une dominicaine qui était la sœur de saint Cunégonde de Pologne. Tous ces saints qui ont des dates comme ça, on peut les rappeler. Et en lisant leur vie, souvent, on est ému. Et ça nous transforme un peu. Faut pas se contenter de ne lire que ça. Hein. Il y a des mutations dans la sainteté, on le voit bien. Hein. Des moines, des gens de toutes sortes. Et aujourd'hui, de plus en plus, la sainteté veut s'éloigner du caractère trop monastique, trop moine. En février 46, je me souviens, j'avais acheté un numéro de La Vie spirituelle, dont le titre était « Vers quel type de sainteté allons-nous ?» Ça fait 50 ans exactement, ces jours-ci, parce que c'est paru en février 46. Il y avait quelqu'un qui avait crié au scandale, je me souviens, il disait « Comment peut-on mettre en question la sainteté chrétienne ? Elle est immuable, elle est unique. » Bon, ben d'accord, il y a des types différents de sainteté. Et il faut bien le voir. Et on peut regretter que les résultats de cette enquête aient pas été publiés au complet. C'est dommage. Mais à 50 ans de distance, ce dossier constitue, me semble, un témoignage qui est bien précieux sur les désirs que les catholiques ont. À quoi ils pensent quand ils pensent à la sainteté? On peut y lire le tournant que va aborder l'Église pour sortir d'une espèce de sainteté de ghetto. Sainteté de monastère, dans lequel elle s'était enfermée pendant des siècles. En somme, l'affaire d'une petite élite spécialisée, pendant que la masse du peuple chrétien se limitait, comme on dit, à faire son salut. Or, les saints de l'an 2000, ils sont déjà nés. Ou ils ne seront pas. À mon avis, ils sont déjà nés, puis ils vont en avoir. Ils sont pas encore des saints, peut-être. En tous les cas, on n'est pas saint par naissance, par hérédité. On le devient. Et ils le deviendront. Je suis sûr qu'il y en a qui le désirent. Ils vont le recevoir, le don. Les saints sont tous des convertis. Tous. même s'ils n'ont pas connu de longues périodes de médiocrité, de turpitude, de péché, quoi. Tous les saints ont vécu une aventure. Quelle que soit l'importance de leur ambition spirituelle ou de leur projet, cette aventure a toujours quelque chose d'imprévisible. Et alors, là, les circonstances, les événements n'y sont pas étrangers. Et une rencontre, ça peut être une rencontre fascinante, hein? Oui, oui, un appel là, qui est vigoureux à servir ou à suivre quelqu'un. Quand quelqu'un nous interpelle de façon vigoureuse, là, on est saisi. Je me souviens, dans mon enfance, il y avait des prêtres qui nous parlaient comme ça, avec beaucoup de bonté, mais de vigueur. C'est aussi parfois la découverte soudaine de la misère toute proche. Cela peut arriver, hein, à l'âge de prendre sa retraite. On a de l'argent, mais tout à coup, on a des placements, justement. Mais on s'aperçoit de la pauvreté, finalement, parce qu'on a cessé de rentrer dans nos bureaux, nos maisons, et de ne pas voir la pauvreté, parce qu'on est en automobile, on circule, on voit plus rien. C'est aussi la mort, parfois, d'un être unique et irremplaçable. Combien de parents perdent leur fils unique? Actuellement, ils n'ont qu'un ou deux enfants. Hein? Et c'est un drame épouvantable. Moi, j'ai perdu mon fils comme ça, il y a près de 2 ans. Et c'est tragique. Ah, c'est dur. Ou bien, on entend à notre porte le cri d'un pauvre qui est bafoué. Ça arrive, ça. Et puis, c'est l'injustice qui triomphe partout, la violence, la haine, le mensonge, et ça change notre cœur, hein? Ça peut ouvrir un cœur, ça peut transformer une vie, hein? Ça provoque à la sainteté. Les saints de l'an 2000 n'ont certainement pas encore connu, hein? Il est toujours dangereux de canoniser quelqu'un avant sa mort. Bon, c'est la prudence de l'Église. Les saints sont au milieu de nous, mais nous ne parvenons pas toujours à les reconnaître. Je lisais ça dans un livre que j'ai ici devant moi, « Le 4 saints » de Louis Lavelle. Oh, c'est publié aussi il y a longtemps. C'est tout des vieux livres, hein, 1951, chez Albin Michel. Mais Bernanos lui disait aussi dans un livre que j'ai lu autrefois, il y a des millions de saints dans le monde, connus de Dieu seul, et qui ne méritent nullement d'être élevés sur les autels. Rien ne les distingue ordinairement de la masse des braves gens. Et ils ne s'en distinguent d'ailleurs pas eux non plus. Ils se croient pareils aux autres. Et l'Église elle-même se garde bien de les détromper sur ce point, hein. Il écrivait ça en 1946, Bernanos. Georges Bernanos, qui est mort, à mon avis, comme un saint fougueux, un saint du tonnerre. Mais qui reconnaît les saints? Dieu garde ça comme un secret. Il attend le jugement. L'évangile de Matthieu, je vous l'ai dit, laisse prévoir des surprises. Au chapitre 25, vous verrez là, des saints qui se rendent compte tout à coup qu'ils sont saints. Vous lisez ça, le chapitre 25, et vous vous rendrez compte que peut-être vous êtes des saints. Mais rendez-vous-en pas trop compte, il paraît que c'est pas bon. En somme, les saints ne figurent pas de leur vivant sur les livres des records, hein, sauf quelques-uns comme Sainte Mère Teresa. Si l'on peut demander dans une enquête quel est l'homme que vous admirez le plus ou quel est l'homme le plus courageux, il serait hasardeux d'interroger sur l'homme ou la femme le plus saint que vous ayez rencontré. Il n'y a pas de concours de sainteté devant un grand jury. Et pourtant, la part de l'opinion publique n'est pas sans importance, hein. De son vivant, elle peut repérer, stimuler, dégrader celui que l'on prend pour un saint. Et après sa mort, est plus ou moins durable. Ouais. Il est essentiel qu'il y ait des saints quand même en l'an 2000. Pourquoi? Parce qu'ils sont nécessaires à la respiration de l'humanité. L'humanité ne respirerait pas s'il n'y avait pas de saints. Ils ouvrent, et c'est eux seuls qui ouvrent des routes, des chemins difficiles, des chemins qui sont stimulants vers une nouvelle façon de vivre. Oui, c'est eux seuls. Les saints témoignent de la continuité de l'histoire. Car l'histoire, c'est l'histoire de la sainteté. L'autre histoire, c'est rien du tout, ça tombe à plat. Ah, je suis peut-être trop catégorique. En somme, les saints parlent de la présence. De la présence qui est toujours active. De celui qu'on appelle le tout autre, du divin. En somme, les saints disent, proclament Dieu aujourd'hui. Ils le proclament pour demain. Et pour l'image de marque de la Sainte Église, pour les signes qu'elle est invitée à donner au monde, pour le service de Dieu, bien, il est souhaitable qu'il y ait des saints, hein? Mais la sainteté ne relève pas d'une décision des autorités du Vatican. C'est évident, hein? C'est pas le Vatican qui décide que quelqu'un va rentrer au ciel. Il est déjà là. Elle reconnaît la sainteté de quelques rares personnes. La sainteté se répand pas comme un produit de luxe. Par la publicité, non, non, non. Ça se programme pas non plus. Alors, je vous l'ai dit, l'appel à la sainteté, c'est général. Hein? Ça s'adresse à des hommes et des femmes les plus différents. Et le saint est toujours inattendu. Hein? Le travail que Dieu fait en nous, dit Bernanos, c'est rarement ce que nous attendons. C'est donc vrai. Dieu nous conduit devant des chemins auxquels on s'attend pas. Il le dit, ça, Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne. Vous avez vu le film, mais si vous avez pas lu le roman, hein? La sainteté, ça se répète pas, mais elle se répère. Elle n'est jamais deux fois la même aventure, identique. Hein? Oui, oui, ça sert à rien de vouloir imiter un prédécesseur en reproduisant sa vie comme une copie conforme. Non, 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 non. Car chaque saint est unique, c'est imprévisible. Nul ne peut dire d'avance que seront les saints de l'an 2000. Moi, oh, les saints, ça provoque une cassure dans une histoire qui est souvent bien routinière, bien plate. Le saint opère quoi? Ben, une espèce de déchirure dans toutes nos habitudes. Le saint fait preuve d'une originalité qui nous surprend. Parfois, ça nous blesse, mais c'est pour une bonne blessure. Et puis, pourtant, il cherche pas à se faire remarquer, en fait, ou à être original. Il se contente pas de faire un peu mieux. Le saint, lui, il fait autrement. Il est surprenant, d'ailleurs, parce qu'il est créateur. On peut lui appliquer ce que disaient des peintres, le fameux peintre Jean Bazaine, dont on parlait beaucoup il y a quelques années. Dans ses notes sur la peinture d'aujourd'hui, il écrivait « Les grands peintres, comme tous les grands novateurs, prennent le monde dans leurs mains et nous le rendent différent. D'abord troublant et inconfortable, méconnaissable parfois, mais agrandi, élargi pour toujours. Alors le saint est à la fois de son temps, puis il n'est pas de son temps. Il peut étonner par sa façon de revenir au passé, là, puis de rappeler une tradition, puis de faire ressurgir une valeur qui a été oubliée. Aujourd'hui, on fait ressurgir la valeur de la pauvreté. Oui, je le dis dans ce grand salon des placements de l'épargne et tout ça. Car nos épargnes et nos placements doivent servir à aider les autres. Comme le saint peut étonner par sa façon d'anticiper sur l'avenir, hein, puis de percevoir plutôt que les autres les signes du monde de demain, il est souvent marginal, il scandalise. Hein, pensez à François d'Assise, dont je vous ai parlé le 4 octobre, et Charles de Foucault encore, dont je vous ai parlé, je vous le rappelle, le 1er décembre. Les cassettes sont disponibles. On peut en avoir des copies. Mais ces saints-là n'ont pas trouvé leur place dans les cadres qui sont proposés habituellement autour d'eux, comme école de sainteté. Ça n'a pas marché. Ils ont créé du nouveau. François a créé quoi? Les franciscains. Charles de Foucault a créé des ermites dans le désert et personne n'est venu leur joindre. Mais d'autres l'ont suivi plus tard, comme le Père Voyaume, les petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus. Et beaucoup de laïcs se sont inspirés de sa pensée. Beaucoup de laïcs, des milliers et des milliers, suivent dans le monde l'esprit de saint François d'Assise et de Charles de Foucault. Or, le saint de l'an 2000 ne pourra ignorer la culture contemporaine, la façon de vivre aujourd'hui, ni les grands courants spirituels de la fin du deuxième millénaire. Non, 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 il aura à critiquer, à les dénoncer, ou à s'en émerveiller aussi pour rendre gloire à Dieu, et à s'y insérer en les évangélisant. Et il aura à se situer par rapport à cette espèce de retour spirituel qui a été prophétisé par André Malraux. Vous vous souvenez, hein, on le répète mille fois, le 21e siècle sera spirituel, ou il ne sera pas. Le saint chrétien n'est pas seulement spirituel, non. C'est d'abord un homme qui vit selon l'esprit de une personne, Jésus de Nazareth. Sa sainteté, elle doit être informée, marquée par l'Évangile, dans le mouvement de l'incarnation. C'est au cœur de ce monde qu'il rencontre Dieu. Il ne s'enferme pas, lui, aujourd'hui dans un ermitage pour fuir les turpitudes de ce monde, bien qu'il y ait beaucoup d'ermites. Et en France, il y en a 500 et au Québec, il y en a plusieurs. Ou s'il le fait, s'il devient ermite, c'est pour transmettre un message, pour être au service des hommes, comme les bénédictins, Simonneau du Lac ou les trappistes. Oui, pour être au service des hommes en leur rappelant quoi? L'absolu de Dieu, puis l'insuffisance de tout le reste. Je le répète, si on pense pas que Dieu est l'absolu et que tout le reste est rien sans lui, on tombe dans le panneau, le vide. S'il s'établit le saint dans un refuge, c'est comme en montagne pour y accueillir les voyageurs épuisés et leur permettre de repartir le lendemain matin. Il ne peut oublier la misère et la faim. Le saint partage. Il va vers les pauvres. Il ne peut négliger la santé et la maladie de ses frères. Il est comme le Samaritain sur la route de Jéricho dans l'Évangile. Il prend sur son cheval, sur sa monture, l'homme blessé. Il le soigne, s'inquiète de son avenir. Le saint n'ignore pas le développement de la science et de la technique biologique, ni les questions qu'elle pose pour l'avenir de l'homme. Il rappelle que le spirituel chrétien n'est pas contre le corps, et que le Verbe Jésus s'est fait chair, et qu'il a guéri les malades. D'ailleurs, l'Église des saints est guérissante. Pensez à tous ces ordres hospitaliers, tous ces hôpitaux sous la gérance de l'Église, tous ces dispensaires dans les pays de mission, et tous ces gens qui adoptent des enfants handicapés, comme dans cette organisation dont je fais partie, qui s'appelle Emmanuel, l'amour qui sauve. Vous voulez adopter un enfant handicapé? Vous pouvez téléphoner à Montréal. Si vous me téléphoniez à Radio Ville-Marie un séjour, je vous donnerai les numéros de téléphone. Oh, je vous le donne, c'est 631-8666. 631-8666. Et là, vous pourrez adopter des fillettes handicapées ou des petits garçons presque naissants. Et donc, vous serez chargé, comme les gens d'Emmanuel, l'amour qui sauve. Le saint ne peut pas ignorer la guerre. Mais il est au courant aussi des idées modernes, des informations. Il les utilise pour diffuser son message. Il s'en détourne aussi pour ne pas se laisser corrompre. Mais il ne peut, en l'an 2000, être un saint du 17e siècle. Un saint chrétien, véritable, doit être d'aujourd'hui et de demain. Il doit sanctifier l'instant présent. Le saint de l'an 2000 doit être un homme qui se bat contre le mal. Et je le dis, contre le malin, contre le démon, contre le malheur, la médiocrité. Il doit se battre contre le matérialisme et la peur. Et le saint, évidemment, va avoir des adversaires. Parfois des ennemis qui lui en veulent tellement qu'ils sont prêts à le calomnier, à le juger, à le mettre à mort. Le saint dérange. Le saint est discrédité souvent, il est incompris, il est critiqué. Pensez à Jean-Paul II, à Mère Teresa même qui est critiquée. Ah, et si le saint reste trop longtemps une vedette populaire, que l'on montre en exemple sur toutes les foires des médias contemporains, puis qu'attire les foules exaltées et enthousiastes, ben le pape, comme Mère Teresa, les saints comme ça, risquent fort de ne donner qu'un témoignage qui devient pollué, et même de se laisser corrompre eux-mêmes par le succès, mais ce n'est pas le cas pour eux. Ce sera le cas pour d'autres, car c'est très, très, très dangereux. Mais je sens bien que ces deux, Jean-Paul II et Mère Teresa, sont préservés. Le pape le plus acclamé doit parfois se demander quand viendra pour lui aussi l'heure de l'échec et de l'exclusion par les espèces de monstres et les princes de ce monde. Il y a des états de vie et des fonctions dans l'Église qui sont au service de la sainteté, mais ceux et celles qui y sont ne sont pas pour autant des saints. Le saint ne sera pas forcément un prêtre ou un moine, mais prions pour qu'il le soit, nos prêtres, qu'il soit des saints. La hiérarchie de la sainteté aux yeux de Dieu est tout autre chose que ce qu'on peut penser. Les saints seront souvent très seuls. D'autres seront reliés à une communauté plus ou moins vaste. Et je suis sûr qu'il y aura des saints chez les chercheurs scientifiques. Il y aura de plus en plus de médecins qui seront des saints, qui se réveilleront. Il y aura surtout des serviteurs des pauvres, les assistants sociaux. Il y aura même des hommes politiques encore qui deviendront des saints, comme on en a eu, Le maire Giorgio Lapira de Florence, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme un saint. Et Robert Schuman en France aussi, qui était ministre des Affaires étrangères, était considéré comme un saint après la guerre. Il y aura des saints syndicalistes, il en faudra. Et des chefs d'entreprise. Oui, des chefs d'entreprise, j'en connais, j'en ai connu un, moi, Monsieur Jacques Janvier Joubert, Gigi Joubert, le père de ma belle-sœur. Je crois qu'il est mort comme un saint. En laissant des millions pourtant. Mais il avait aidé tellement de monde qu'au moment de ses funérailles, c'était incroyable tous les gens qui venaient remercier ma belle-sœur de la générosité sans borne de Gigi Joubert, un Québécois. Il y aura des artistes aussi, des ermites, des journalistes, des pilotes d'avions, même des informaticiens, pourquoi pas, des techniciens, des économistes, des agriculteurs. Chacun peut devenir un saint, quelle que soit sa profession et sa compétence. Il y a des types de vie qui sont sans doute incompatibles avec la sainteté. Mais c'est Jésus qui dit que les prostituées vont nous précéder dans le royaume des cieux. Oui, le saint, c'est un imitateur de Jésus qui est fidèle à la parole et à l'Esprit Saint. Il y a à inventer, à faire ce que Jésus ferait aujourd'hui. Le saint, c'est celui qui prend au sérieux cette fascination puis qui se laisse transformer. L'Esprit Saint circule librement à travers le monde. On ne sait jamais très bien d'où il vient ni où il va, hein? Soyez prêts. Rentrez dans le bonheur. Dites oui. Soyez intègres. Témoins de l'absolu. Lisez les paroles essentielles de Jésus dans l'Évangile, puis recevez souvent l'Eucharistie, c'est de le recevoir. Hein? C'est la seule façon. La vérité, l'authenticité des évangiles canoniques tient à ce qu'ils ont refusé de sacrifier aucune des trois grandes tendances qui en privilégient tout le caractère. Hein. C'est que il y a de l'enseignement, de la sagesse, puis il y a de la guérison dans les évangiles, et tout ça est fait pour nous. C'est fait pour nous. Hein. Les saints de demain, pour rendre compte de ces diverses approches que sont l'enseignement, la réflexion, le soin des pauvres et des malades, eh bien, c'est là que les saints vont se réjouir, hein, et que d'autres autour d'eux, qui vivent autrement l'aventure de la sainteté, apprécieront la diversité. Et les gens seront de mieux en mieux si vraiment nous nous sanctifions nous-mêmes, car nous sanctifierons les autres autour de nous. La question des saints, aussi hors de l'Église, peut être posée, et j'en parlerai à l'occasion, car il y a des grands saints dans d'autres religions. En conclusion, il faut rappeler que le saint est fécond. Il entraîne, il stimule, il n'a pas toujours de disciples de son vivant, mais il ne reste pas anonyme ni inconnu, le saint. On le reconnaît souvent, mais dans un tout petit milieu, 3-4 personnes parfois seulement, ou un homme qui reconnaît la sainteté de son épouse. Que ce soit par une institution ou par le bouche à oreille, le saint fait parler un petit peu de lui. Alors il peut appeler autour de lui des gens à le suivre sans qu'il s'en rende trop compte. Et sa vitalité, sa sainteté sont des repères et des signes. Ils aident les autres, hein, à discerner des appels, à suivre des pistes. Hein. Pensez au matin à 8h30 à Radio Ville-Marie, il y a le père Yves Girard. Peut-être est-ce un saint trappiste qui vient nous inviter. Il y en a d'autres à Radio Ville-Marie sans doute. Et les saints, dès l'an 2000, agiront sur tout le 21e siècle. Hein. Ils agiront sur le troisième millénaire. J'aimerais terminer par un très beau texte de Saint-Hilaire de Poitiers qui a vécu il y a des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, et on y trouve des choses superbes, car l'Église est riche de 2000 ans de merveilles. Il écrit, « Mon Dieu, j'en ai conscience, la tâche principale de ma vie, c'est de te consacrer, Seigneur, Père Tout-Puissant, tous mes efforts, toutes mes paroles et toutes mes pensées, puisque c'est toi qui m'as accordé le langage dont je me sers. Le meilleur fruit que je puisse en tirer, c'est de te servir et de proclamer que tu es Dieu le Père, le père d'un fils unique qui est Dieu. Il me faut donc établir la preuve de cette vérité devant un monde qui l'ignore. Tel est ce que je reconnais comme le but essentiel de ma vie. Pour le réaliser, c'est à toi, Seigneur, que je dois demander la grâce, le secours de ta miséricorde. Pour toi, j'ai tendu les voiles de notre foi et de notre témoignage. Que l'Esprit-Saint donne élan et dynamisme à mon témoignage, dont j'ai pris pour toi l'engagement. Nous savons que l'Esprit est fidèle. Nous savons qu'il est fidèle, celui qui nous a fait cette promesse, « Demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, et on vous ouvrira. » Et quant à nous, Seigneur, nous t'en supplions, accorde-nous ce qui nous manque, pauvres que nous sommes. Accorde-nous ta force, c'est avec une ardeur inlassable que nous étudierons les témoignages des saints. Nous irons frapper à toutes les portes pour entrer dans la compréhension de ton mystère. Seigneur Dieu, sois présent, oui, présent à cette recherche. Ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous toi-même quand nous frapperons, car nous mettons en toi, Seigneur, toute notre confiance.